affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors que nous enregistrons cette émission, les résultats du premier tour des élections présidentielles a permis de mesurer combien notre pays est profondément divisé en une multitude d'options politiques radicalement antagonistes. Toutefois, par-delà les divergences profondes, les électeurs se retrouvent probablement sur un constat et une certaine amertume. Ils sont en effet nombreux à estimer et déplorer que la campagne n'ait pas permis d'aborder les enjeux et défis terribles auxquels la France, l'Europe et probablement le monde vont devoir faire face dans les années à venir. Dans le pays, chacun pressent en effet qu'il n'est plus possible de reporter encore la confrontation avec le réel. Chacun ressent désormais que nous sommes individuellement et collectivement au pied du mur, qu'il va falloir observer ce réel, s'y confronter et relever tous les défis qu'il comporte. Ce constat est en tout cas celui que dresse notre invité de ce jour. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Jacques Delarosière, que chacun de nos auditeurs connaît bien. Je m'en veux de le présenter alors qu'il tient une chronique sur notre antenne, ce dont nous le remercions. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous avez fait une longue carrière dans de nombreuses institutions internationales. Je cite le Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque de France, puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Vous êtes aujourd'hui conseiller auprès du président de BNP Paribas et vous publiez aujourd'hui même « Les lames de fond se rapprochent », un titre barré sur la couverture du mot « urgence ». Il s'agit en effet probablement de prendre les choses en main. Quelles sont, première question, quelles sont ces fameuses lames de fond que chacun pressent mais identifie peut-être mal finalement?
Oui, alors merci beaucoup de m'avoir invité. Les lames de fond, ce sont des tendances structurelles qui sont en général inexorables, qu'on ne peut pas changer en profondeur. Et qui avance assez lentement pour se manifester, si vous voulez, par des traits qui influencent la réalité quotidienne au bout d'un certain temps. Alors, je les ai appelés des lames de fond parce que ce sont des mouvements qui se passent au début sous la surface de l'eau. On ne les voit pas à la surface. Mais ces lames avancent et, au bout d'un certain temps, créent des perturbations ou des catastrophes dont les navigateurs sont conscients. Alors, quelles sont-elles, ces lames de fond? La première et peut-être la plus déterminante, c'est la lame de fond démographique. Le monde entier, dont la croissance de la population a été énorme, puisque nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants et que la progression a été phénoménale sur une cinquantaine d'années, cette population est en train de changer. Elle vieillit, le taux de mortalité s'abaisse, le taux de fécondité également, c'est-à-dire qu'il y a moins de jeunes, il y a moins d'enfants qui naissent, il y a plus d'actifs vieillissants et moins d'actifs cotisants, si je puis dire. Et donc c'est cette révolution démographique qui avance lentement. Alors pendant très longtemps, on a dit, oui, c'est vrai, ce sont des sujets importants que ceux du vieillissement de la population de la planète, mais ce sont des phénomènes qui s'inscrivent dans le très long terme. Et donc, les hommes politiques n'étaient pas très intéressés par ces évolutions, parce qu'ils avaient l'impression que c'était pour les successeurs des successeurs des successeurs. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. ce n'est pas, comme disait Louis XV, après moi le déluge. On peut plus dire ça. Le déluge, il est là. Les lames de fond démographiques sont présentes et elles se rappellent à notre attention pratiquement à tout moment et à travers beaucoup de détours institutionnels de notre existence. Une deuxième lame de fond, qui est moins connue, celle-là, ce sont les inégalités qui fleurissent dans le monde entier, que ce soit chez les pays dits avancés ou les pays en développement ou émergents, et ces évolutions tendent à davantage d'inégalités sociales. Alors c'est un phénomène qui est lié à la mondialisation, parce que avec l'ouverture du commerce international, la régénérescence, si vous voulez, de toute une série de pays très pauvres qui ont pu s'ouvrir à la croissance et à l'éclosion de classes moyennes, ces phénomènes se sont accompagnés de beaucoup d'inégalités, tant dans les pays développés, c'est le cas d'une manière presque emblématique des États-Unis, où les inégalités ont maintenant retrouvé leur niveau d'acuité des années 20. Mais c'est vrai aussi pour d'autres pays occidentaux, européens, et c'est vrai aussi pour les pays émergents qui voient, si vous voulez, se développer très vite les classes sociales qui profitent de la mondialisation, de l'exportation, des innovations technologiques, à côté de populations davantage rurales et qui sont basées sur des processus de production qui sont caractérisés par beaucoup moins de progrès de productivité. Donc vous avez ce phénomène. Et ce phénomène de l'inégalité croissante, il a des conséquences à la fois sociales, mais politiques aussi. Vous faisiez allusion à la campagne française du deuxième tour. Il a des conséquences politiques très, très nettes et très importantes, qui ont d'ailleurs été analysées par des économistes et des sociologues comportementaux, notamment aux États-Unis. Vous avez une troisième lame de fond, qui est peut-être un peu plus technique et plus difficile à décrire, mais elle est importante. C'est la réduction tendancielle de ce qu'on appelle le taux de productivité, c'est-à-dire en fait du taux de croissance. Nous avons été habitués dans les années glorieuses, les 30 glorieuses, à des taux de croissance en termes réels qui étaient considérables, qui étaient de l'ordre de 5% par an. Après la crise pétrolière de 73-74, il y a eu un ralentissement de ce taux de croissance, mais enfin on avait quand même 2,5 de croissance par an en moyenne en termes réels, ce qui était substantiel. Et depuis la crise de la grande crise financière de 2007-2008, on observe maintenant des taux de croissance qui sont de l'ordre de 1 à 1,5%, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'on avait dans la période antérieure. Et il faut un peu se pencher sur ce phénomène du ralentissement de la croissance. Il faut se demander d'abord si c'est un phénomène durable ou si c'est un phénomène un peu conjoncturel qui peut être changé au gré des cycles économiques. Et j'essaye d'évoquer la réponse à cette question importante dans mon petit livre. Et puis, il faut comprendre que cette décroissance peut-être séculaire, disent un certain nombre d'économistes, du taux de croissance, que cette décroissance, elle est très problématique pour toute une série, si vous voulez, d'équilibres, que ce soit les équilibres financiers, finances publiques, que ce soit les équilibres de retraite. Ce sont des ajustements très très fort qui procède de cette réduction des taux de croissance. Il faut se rappeler que quand un gouvernement, une institution publique essaye de rosir un peu le tableau, si je puis dire, la variable sur laquelle on agit, c'est le taux de croissance. On dit on va mettre un peu plus de taux de croissance et l'équation à ce moment-là se résout. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'a plus le luxe de dire on va avoir une croissance de 3%. On ne peut plus se dire ça parce qu'elle n'est pas là, cette croissance, et rien n'indique qu'elle va revenir. Et donc, il faut apprendre à vivre avec des taux de croissance plus faibles que dans le passé, mais ça suppose à ce moment-là des adaptations de nos systèmes sociaux. Et puis il y a une autre lame de fond qui est celle de l'écologie. Nous vivons sur et dans une planète dont les conditions fondamentales de survie ne sont pas suffisamment protégées. Et c'est tout le problème de l'écologie moderne. Et j'essaye de montrer dans un chapitre que l'homme a été très peu conscient et très peu respectueux de l'environnement dans lequel il vit, et qu'aujourd'hui, les lames de fond, si vous voulez, sont tellement importantes que on n'a plus le luxe de se poser la question. Il faut agir. Mais le fait d'agir est complexe, demande de l'investissement public et privé, et demande aussi une détermination très volontariste de la part des grandes puissances polluantes du monde, et donc c'est une lame de fond en soi. Et puis il y a des lames de fond de caractère plus financier qui sont aussi importantes. C'est ce que j'appelle la financiarisation du système et l'abus de la croissance monétaire. Ce sont des lames de fond qui nous ont en fait habitués depuis les années 70, avec l'écroulement du système de Bretton Woods, c'est-à-dire un système disciplinaire de rapport de change stable ou fixe entre les pays. Avec l'abolition de ce système en 1973, on est entré dans cette époque de la financiarisation à outrance, c'est-à-dire dans la possibilité qu'offrait le système de s'endetter quoi qu'il arrive, et de s'endetter d'une manière illimitée. Et donc, cette tendance vers un endettement quasi illimité est en train aujourd'hui de montrer ses conséquences, de faire apparaître des contradictions et de faire apparaître en fait qu'on ne peut pas indéfiniment s'endetter. Et donc, on arrive à un point où cette facilité, si vous voulez, sur laquelle on a vécu pendant des décennies et des décennies, prend maintenant fin, ce qui complique encore la solution des problèmes précédemment évoqués. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, mais très résumé, la nature de ce que j'appelle les lames de fond.
Dans l'introduction de l'ouvrage, vous nous expliquez bien que ce qui est évidemment redoutable, c'est que ces lames de fond convergent vers notre époque, elles sont concomitantes, elles sont même souvent liées, et qu'il serait illusoire d'agir sur l'une sans prendre en compte là ou les autres. Toutefois, pour une raison de méthode et d'exposé, je vous propose qu'on passe quand même en revue chacune d'entre elles pour en prendre la mesure, un petit peu comme on prendrait la mesure d'une secousse sismique. Est-ce que vous pouvez les prendre dans l'ordre, tel que vous les avez abordées?
Oui, tout à fait.
Commençons donc par
Le vieillissement.
Le vieillissement, et avec quand même un petit effet de sidération, car s'il y a un domaine dans lequel, m'avait-on dit durant mes études, la prévision est possible, c'est bien la démographie. Je voudrais donc, au passage, vous nous expliquer aussi
Vous avez très bien enseigné cela. La démographie est une des sciences sociales et humaines les plus exactes, les plus prédictives, mais aussi les plus dont les manifestations, si vous voulez, sont assez lentes à se faire comprendre, à se manifester. Et nous avons à tout moment des conséquences de ce phénomène, de cette transition démographique que j'expliquais, qui est caractérisée donc par le ralentissement de à la fois de la survenance de la mort, ce qui est une bonne chose, mais le ralentissement aussi de la fécondité, c'est-à-dire de l'arrivée à la vie de jeunes enfants. Et aussi les progrès médicaux qui font que les gens qui vivent plus longtemps. Et donc vous avez à la fois une espérance de vie de plus en plus longue, mais aussi une réduction des classes dites actives, et c'est très important pour les régimes de retraite, et un allongement de la période de retraite. Je vais vous donner une idée des conséquences institutionnelles de cette profonde mutation démographique. Au début des années 80, en France par exemple, mais c'est vrai pour l'ensemble des pays européens, il y avait à peu près 4 à 5 actifs pour financer un retraité. Et si on se dit, je prends ça pour la rapidité du raisonnement, si on se dit qu'on voulait assurer, disons, 50% du bénéfice, si vous voulez, de la vie professionnelle en fin de carrière à un retraité, eh bien, avec 4 ou 5 actifs qui, dans un système de répartition, cotisent pour la retraite de ce retraité-là, il suffisait de cotiser à hauteur de 10% par personne, quand on était 5, pour faire 50%. Et 10% de cotisation, ça passait à peu près. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, et là je me compare à une situation de 1980, donc c'est 37 ans après. Et 37 ans, c'est très peu dans une évolution sociale. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus 5 ou 4 actifs pour un retraité. Il y en a 1,8. Alors, je sais bien qu'on ne coupe pas les actifs en morceaux, mais statistiquement, ça dit ce que ça veut dire.
Et en 2050, on va arriver à 0,74.
Absolument. Et donc, quand vous faites votre petit raisonnement, je veux assurer 50% dans un système de répartition aux retraités, vous ne pouvez plus le faire lorsque vous n'avez plus que 1,5%. Voire un bientôt d'actifs pour un retraité, parce qu'il faudrait lui demander 50% de son salaire à titre de cotisation, et ce serait totalement impossible. Et donc le système a craqué, il n'est plus jouable. Et si on avait tenu compte, par exemple en 1980, quand on a remis l'âge de la retraite, quand on a placé l'âge de la retraite à 60 ans alors qu'il était à 65. Et le système était très équilibré à l'époque, il n'y avait pas de problème. Mais on savait, les démographes savaient, que en passant à 60 ans l'âge de la retraite, on allait créer un déséquilibre majeur d'ici une quinzaine d'années. On le savait, c'était démontré. Eh bien, et on l'a dit, bien entendu, les démographes l'ont dit, les économistes l'ont dit, mais on l'a fait néanmoins pour des raisons de pure démagogie. Et aujourd'hui, on n'a plus le luxe de se dire est-ce qu'on va tricher avec la démographie. C'est plus possible. Elle est là, la démographie. Le fait qu'il y ait moins d'un retraité ou à peine un retraité, je veux dire à peine un actif pour un retraité, c'est quelque chose qui maintenant est totalement déterminant. Alors on a trois solutions. Première solution, c'est d'augmenter les cotisations. C'est ce qu'on a fait depuis un certain nombre d'années. Et ça, c'est très pénalisant pour les actifs, parce qu'ils sont obligés de payer davantage de cotisations. Et c'est très pénalisant, en particulier en France, pour les entreprises, qui sont les grandes pourvoyeuses des cotisations sociales, et en particulier des cotisations de retraite. Et si vous regardez la manière dont les entreprises françaises sont chargées de cotisations sociales, vous voyez que c'est le double de ce qui se passe, par exemple, pour les entreprises en Allemagne, en termes réels, c'est-à-dire en termes de rapport au PIB. C'est deux fois plus. Et ce deux fois plus explique le fait que les entreprises françaises soient moins compétitives que les entreprises allemandes, notamment sur les hauts de gamme, et qu'elles aient du mal à investir et à embaucher. Et donc il y a une boucle fatale, c'est que plus on augmente les cotisations, en fait, plus on pénalise les entreprises et plus on pénalise les jeunes en quête d'emploi. Et donc, c'est pas la voie. Alors il y a une deuxième voie qui est possible, c'est de réduire le montant des retraites. On le fait un peu, mais d'abord, les petites retraites sont un véritable problème social. Et je ne crois pas que ce soit une bonne idée sur le plan de la solidarité sociale et de la paix sociale que de dire aux retraités, ben tant pis, c'est vous la variable d'ajustement de la démographie, et vous recevrez de moins en moins d'argent, c'est-à-dire que votre taux de remplacement sera de plus en plus faible. Et il reste une troisième alternative, qui est à mon avis la seule qui mérite d'être considérée, c'est l'allongement du départ en retraite. Si vous avez une espérance de vie qui est accrue, et qui est considérablement accrue, parce que on avait des espérances de vie qui étaient autour de 70 ans, maintenant on a des espérances de vie qui dépassent 80 ans, donc on a augmenté l'espérance de vie de plus de 15 ans. Je trouve qu'il est assez normal que si on est en espérance de vie accrue, longue, et dans de bonnes conditions de santé, bien entendu, et je trouve assez normal de partager un peu, avec les cotisants, le financement de la retraite par une augmentation de 2-3 ans de la période de vie active, c'est-à-dire en reportant l'âge de la retraite en France de 62 à 65 ans. C'est ce que font tous nos partenaires européens, et je pense que non seulement c'est un moyen efficace de assurer la pérennité des finances des régimes de retraite, mais c'est aussi légitime sur le plan de la solidarité sociale. C'est un exemple. Maintenant, vous prenez la lame de fond de l'inégalité sociale. Alors, il y a deux manières de l'aborder. Ou bien vous dites l'inégalité sociale a cru partout dans le monde, pas entre les pays, parce que vous avez des pays comme la Chine ou l'Inde qui commencent à sortir de leur pauvreté, mais à l'intérieur des pays, vous avez un phénomène que je décris dans le livre et qui est un phénomène inégalitaire. Alors vous pouvez dire, si vous avez un raisonnement, je dirais très court, vous pouvez dire, ah ben c'est l'internationalisation du commerce qui nous a amenés dans la mondialisation. Vous nous dites que la mondialisation est génératrice d'inégalités, supprimons la cause de tout ça et retournons au protectionnisme. Alors en fait, il y a des gens qui, plus ou moins consciemment, pensent cela. Je crois que c'est une erreur. Je crois que ce n'est pas dans le protectionnisme qui comporte beaucoup d'inconvénients pour ceux qui le manient, et en particulier un inconvénient qui est celui du rétrécissement, si vous voulez, du potentiel de croissance, je ne crois pas que ce soit dans le protectionnisme que se trouve la réponse aux facteurs de l'inégalité sociale. Je pense que c'est plutôt dans la politique de redistribution des revenus.
Alors peut-être, avant d'aborder la solution nécessaire à ce problème, ça vaut peut-être la peine, parce que vous le disiez, ce phénomène est moins connu, d'en saisir l'ampleur en donnant... quelques chiffres, j'en prends un, mais il y en a d'autres que vous pourrez en rajouter d'autres, tirés bien sûr de votre ouvrage. De 1988 à 2008, on observe que le montant absolu des gains de revenus réalisés pendant cette période, 44% de ces gains sont concentrés sur les 5% les plus riches.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose à la marge, c'est considérable, c'est-à-dire que c'est une véritable polarisation de la distribution des revenus.
Tout à fait. Et ce phénomène que vous avez relevé dans le livre, est particulièrement marqué aux États-Unis, qui détient la palme de la croissance des inégalités. Il est beaucoup moins vrai dans certains pays européens, comme la France, les Pays-Bas ou les pays scandinaves, encore que l'inégalité s'accroît dans certains de ces pays. En France, la France est peut-être le pays où les inégalités de revenus ont été les plus faibles, si vous voulez, la croissance des inégalités de revenus. Il y a un peu d'inégalité patrimoniale qui a cru, mais... Et alors, le problème qui se pose avec ces inégalités, c'est qu'il y a un clivage qui s'établit dans le monde, et pas seulement dans certains pays, mais dans le monde, entre les bénéficiaires de l'innovation technologique, du monde moderne. Et quand on a la chance de travailler dans ce secteur-là, eh bien, on a des gains de productivité qui sont élevés, on a des salaires qui sont plus élevés, on a un niveau de vie qui est plus élevé. Mais à côté de ces classes un peu privilégiés, si vous voulez, dans la répartition des revenus. Vous avez les anciennes classes moyennes et les classes plus modestes qui subissent les à-coups de la mondialisation, c'est-à-dire du clivage où il y a une économie moins productive qui vit aux côtés de l'économie plus innovante. Et les différences de revenus, les différences sociales entre ces deux sous-ensembles tendent à augmenter. Et c'est un phénomène qui, politiquement, a beaucoup d'incidence. Et je pense que on ne s'occupe pas suffisamment de cette évolution tendancielle. C'est vraiment une évolution structurelle. C'est une lame de fond, cette affaire-là. Et comme elle est au fond de la mer, on ne la voit pas. Et elle commence à manifester quand même des règlements importants.
Oui, les classes moyennes commencent à en avoir sérieusement conscience.
Tout à fait. Alors, elles en ont conscience. D'ailleurs, vous avez un graphique dans mon livre qui est très significatif de cela. Les classes moyennes ont tendance à se restreindre. Et celles qui sont encore là ont tendance à être défavorisées par rapport aux déciles supérieurs. Alors, je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas être inertes devant ces inégalités, et c'est tout le problème de la redistribution, si vous voulez, des revenus, par le biais notamment de la fiscalité et de certaines dépenses publiques qui tendent à réduire les inégalités. Alors, si vous prenez la vague de fond environnementale, elle paraît plus lointaine, parce que personne n'est immédiatement responsable de cette vague de fond. Mais elle est terrible. Parce que si on croit à la majorité des savants qui nous le disent, si on croit que la continuation du modèle industriel tel que nous le connaissons depuis une centaine d'années, qui est un modèle qui ne s'occupe pratiquement pas de l'écologie, va continuer, non seulement continuer, mais va absorber les couches sociales des pays jusqu'à présent en développement, vous avez des conséquences à terme avec l'émission des gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète qui mettent en cause, si vous voulez, la vie humaine sur notre Terre. Et on est bien obligé de se dire, que faut-il faire ? Et les solutions, elles sont maintenant à peu près connues. Il faut réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et on commence à le faire, d'ailleurs. C'est pas l'action qui a été menée depuis Stockholm et Kyoto n'a pas été inutile, loin de là. Mais on a un peu stabilisé l'émission de gaz à effet de serre, à peu près au niveau de l'année 2000, ce qui est un achèvement assez remarquable. Mais on n'a pas traité le problème des pays émergents, qui accèdent, si vous voulez, à un état de vie plus développé, plus meilleur, mais qui y accèdent avec un modèle économique qui est le modèle de la pollution que nous connaissons. Et si on rajoute à la fois la croissance de la population humaine plus la généralisation du modèle polluant, alors on arrive à des impossibilités du point de vue des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et du maintien à 2 degrés centigrades de l'augmentation de la chaleur, si vous voulez, climatique.
Ce qui est l'objectif de la conférence de Paris.
Tout à fait. Et donc on n'y arrive pas. Et alors, il faut se poser les questions. Comment faire pour que la Chine, l'Inde et les pays en développement entrent dans le processus plus vertueux de la réduction des gaz à effet de serre? Vous verrez, il y a une allusion dans mon livre au fond vert qui consisterait à distraire une partie importante de l'aide publique au développement vers les changements et les orientations nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement ou émergents. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire, mais ce sont des choses qui coûtent et qu'il faut ensuite réinsérer dans la recherche, dont je dirai un mot dans un instant, d'un meilleur équilibre des finances publiques. Donc les problèmes convergent dans leur complexité, que ce soit le vieillissement, que ce soit les inégalités, que ce soit le réchauffement de la planète, ils convergent dans leurs complications et ils convergent aussi dans la nécessité de faire face. Parce qu'il faut faire face...
Plus on attend, plus ce sera dur.
Et oui, et plus on attend, plus ce sera dur. Alors il y a une école, par exemple en matière écologique, qui dit, mais non, il faut attendre, il ne faut pas faire ce que dit le SIEC, c'est-à-dire le comité qui a été institué par les gouvernements pour réfléchir et proposer des recommandations sur les problèmes du réchauffement climatique. Il ne faut pas faire ça. Il faut attendre que ça arrive. Il y a certains qui sont d'ailleurs un peu sceptiques sur les manifestations de ces gaz à effet de serre. Et puis, à ce moment-là, quand on verra les choses arriver, par exemple la montée des océans et la destruction d'un certain nombre de villes et de populations, notamment dans les zones tropicales, alors il faudra relever les digues et on pourra faire un programme d'ajustement, si vous voulez, de réaction au problème. Alors je crois que c'est une manière très typique de l'autruche qui se met la tête dans le sable.
Oui, ce qui est séduisant dans cette option, c'est que ce sera plus tard.
Oui, ce sera 40 ans plus tard, mais les dangers qui se seront réalisés pendant cette période de 40 ans seront impossibles à rattraper. Et donc je crois que c'est une mauvaise idée. Alors vous avez aussi la financiarisation qui a été un peu la cerise sur le gâteau de ce que je décris. La financiarisation, c'était magique à partir des années 70. On pouvait s'en sortir par le fait d'emprunter sur les marchés financiers mondiaux. Et je décris dans mon livre la manière insidieuse qui a permis un système où la rareté avait encore une conséquence sur la vie humaine. Quand c'était rare, il fallait travailler pour y arriver. Et là, la rareté a été gommée par le fait que tout pouvait être financé. Et on n'a pas beaucoup réfléchi, je dois dire, aux conséquences de la financiarisation. Et moi, je suis un peu professionnellement attaché à cette notion parce que j'ai vécu ce que je décris dans un autre livre qui a été publié il y a quelques mois sur la succession des crises financières depuis le début des années 70.
Un moment de crise, si je ne me trompe pas, c'était le titre, non ?
C'est ça, oui. Et j'ai décrit la facilité accrue que le système a eue de se financer par emprunt. Alors, l'emprunt, c'est très bien, mais il y a un moment où la charge de l'emprunt devient excessive par rapport aux capacités de l'emprunteur et où il faut en fait se remettre en question. Et je crois que avec des taux d'endettement public qui avoisinent 100% du produit intérieur brut, on arrive à des impossibilités, à des contradictions, et donc il faut se remettre en question. Et cette vague de la financiarisation à outrance, de la facilité monétaire à outrance, est quelque chose qui a beaucoup séduit nos contemporains, parce que c'était facile, c'était agréable, mais on en voit malheureusement maintenant les contradictions finales.
C'est quand même un peu le trait constant au-delà des aspects techniques, des erreurs techniques, de prévision ou de difficultés à faire changer les mentalités, on a quand même un petit peu l'impression que face à chacune de ces lames de fond, un peu de bon sens, l'intelligence était là pour les percevoir, pour s'y préparer, mais que pourtant, rien n'a été fait. C'est-à-dire que ce soit la démographie, l'accaparement des ressources, l'endettement, on a un petit peu l'impression quand même de plusieurs générations qui se disent les problèmes seront réglés par les suivants. Est-ce que
oui, mais je crois que c'est...
qu'au fond il n'y a pas ça.
Je crois que c'est une tendance qui est malheureusement constante dans l'histoire. Je ne pense pas que l'humanité, si vous voulez, prise en bloc, soit faite d'une manière telle qu'elle prenne en main sa destinée dans le très long terme en réfléchissant aux conséquences pour les générations futures, et pas la génération qui suit, mais cinq générations après. Je ne crois pas que l'humanité ait jamais pris en compte, si vous voulez, une dimension temporelle de cette importance. Je crois que... Alors, ça serait intéressant, d'ailleurs, sur le plan philosophique, de se demander pourquoi on n'a pas davantage eu conscience des lames de fond structurelles, qu'on n'a pas davantage prévu les choses. Mais... en dehors de certaines exceptions assez particulières, je vais vous en citer une comme ça qui me vient à l'esprit en vous parlant, c'est par exemple les Norvégiens qui ont eu la chance d'avoir dans leur mer une mine de pétrole phénoménale et de gaz. Alors, ils ont fait un peu ce que vous disiez. Ils se sont dit, ce pétrole, on sait très bien qu'il ne va pas être éternel, et avec les taux d'extraction actuels, ils ont fait des courbes, et ils savaient qu'au bout de X années, la manne pétrolière disparaîtrait. Et donc, ils ont bâti un fonds, qui est un peu un fonds de sécurité, dans lequel ils ont placé une grande partie des revenus tirés de l'extraction pétrolière et gazière, ils les ont mis là-dedans, ils ont fait fructifier, et ils se sont dit, pour les générations à venir, ça sera quelque chose pour le manque à gagner, résultant de l'épuisement des couches géologiques. Et donc c'était une vision à très long terme, mais c'est du pointillisme ce que je vous dis là, ce n'est pas une vision très profonde. Certains pays du nord de l'Europe sont assez, je dirais, assez adaptés à cette vue plus longue des choses. Par exemple, leurs régimes de retraite ont été très tôt amenés à des seuils de déclenchement qui tenaient compte de la démographie. Par exemple, la Suède est à 65 ans depuis très longtemps maintenant, et parce qu'ils ont réfléchi sur la démographie, et peut-être c'est ça le miracle de la démocratie des pays d'Europe du Nord, ils en ont fait des sujets de décision et de réflexion politique. C'est-à-dire qu'au lieu de, dans un pays comme la France qui tend à cliver le jeu politique autour de notions, je dois dire, assez rudimentaires, qui sont celles de est-ce qu'il n'y a pas trop d'immigration, est-ce qu'il n'y a pas trop de financiarisation, par exemple. Je prends un mauvais exemple, mais au lieu de se dire...
Il reste dans l'abstraction aussi.
Oui, il y a beaucoup d'abstractions, il y a beaucoup d'affaires culturelles, mais au lieu de centraliser les débats politiques, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, ces jours-ci, sur des clivages qui sont peut-être importants, mais qui ne sont pas décisifs pour l'avenir de notre humanité, on pourrait, à la suédoise, imaginer une situation dans laquelle, depuis 15 ans ou 20 ans, on aurait dit aux Français, mais quels sont les mérites comparés du départ à 65 ans, du départ à 62 ans, de la retraite par points qui s'équilibre elle-même, etc. Eh bien, ces débats n'ont pas lieu. Ces débats n'ont pas lieu. Et moi, je pense que c'est une fragilité et une insuffisance de la densité politique et démocratique d'un pays comme le nôtre. Et donc, je réponds à votre frustration que je partage et qui consiste à dire, mais comment se fait-il que face à ces lames de fond connues, il n'y a pas besoin d'être un grand esprit pour les trouver. C'est dans toutes les revues, c'est dans toutes les études. Toutes les études ont été publiées. Comment se fait-il qu'on n'a pas davantage tiré les fils de tout ça, un peu comme j'essaye de le faire dans mon petit livre, et se dire mais comment est-ce qu'on agit, puisque c'est malheureusement des choses qui sont assez convergentes et qui densifie, si vous voulez, les contradictions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Alors, malheureusement, j'ai pas la réponse. Je pense que la personne humaine, même quand elle vit en société démocratique, a du mal à se projeter dans le très long terme.
Alors, de toute façon, nous n'en sommes plus là, on ne va pas pleurer sur l'air renversé comme je vous ai invité à le faire, car désormais, comme vous le dites bien dans votre ouvrage, il ne s'agit plus d'anticiper, mais de réagir à quelque chose qui est désormais présent, car les contradictions deviennent criantes et le système craque de partout. Du coup, je vous pose la question qui sert de filigrane à la deuxième partie de votre ouvrage. Que faire aujourd'hui, maintenant ?
Oui, alors, il faut avoir conscience d'abord de tout ça, ne pas se faire trop d'illusions ni se raconter des histoires, parce que toute la période préliminaire, si je puis dire, au moment d'aujourd'hui, est une période où on s'est complus à se raconter des histoires agréables, comme quoi la croissance était là, que la démographie, en fin de compte, c'était pas si important que ça. Enfin, on a raconté des tas de choses qui étaient inexactes. Alors maintenant, on peut plus le faire parce que ça devient trop patent. Et donc, on est face à la réalité. Alors, je crois qu'il faut disséquer les problèmes les uns après les autres en fonction des États qui sont affectés par ces données et réfléchir. Alors, en France, par exemple, il y a une chose qui apparaît à tout observateur, c'est que le chômage en France, et en particulier le chômage des jeunes, est beaucoup plus élevé que dans les pays comparables. Donc, c'est une tare que nous avons, nous, Français. Les Allemands ont 4,5% de la population active qui est en chômage, c'est-à-dire, en fait, c'est le minimum du chômage qui est compatible avec une société qui bouge, et donc c'est ce qu'on appelle le plein emploi. La France est à 10% de chômage, beaucoup plus pour les jeunes.
Mais c'est de l'ordre de 24%, je crois, les jeunes,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est de l'ordre de 24% pour les jeunes. Et je crois que moi, si j'étais quelqu'un d'important en France, je me dirais que les hommes politiques sont responsables de cette affaire. Et quand vous voyez que le chômage ne peut être réduit que par une économie florissante, c'est-à-dire par des entreprises qui ont envie d'investir, d'augmenter leur chiffre d'affaires, de recruter des nouveaux venus, etc. Il n'y a que ça, c'est pas les administrations publiques avec l'état de la dette publique qui pourront le faire. Quand on se dit ça, on est amené tout naturellement à se dire, bon, mais comment ça se passe en France par rapport à, par exemple, l'Allemagne. Je la prends comme un exemple parce qu'il se trouve que sur le plan du chômage, elle a réussi. Et à ce moment-là, si je constate, comme je le constate dans le livre, que les charges sociales sur les entreprises sont deux fois plus élevées en termes réels que ce n'est le cas de l'Allemagne, je me dirais peut-être que ça a une incidence sur la compétitivité des entreprises et leur désir d'investir et de recruter. Et comme ça a une incidence, c'est démontré par toutes les études qui ont été faites sur le sujet, eh bien je ferai en sorte d'aller plus loin que le gouvernement précédent, qui a commencé à réduire les charges sociales sur les entreprises, mais j'irai plus loin et je m'efforcerai d'aboutir à quelque chose qui serait comparable, si vous voulez, à la charge qui pèse sur les entreprises allemandes, quitte à faire des réajustements par la TVA. Je me dirais que ça, c'est le début de la solution du chômage. Et pour ça, il faut évidemment aussi que je réduise la dépense publique, si la dépense publique n'est pas justifiée. Or, la dépense publique en France, elle représente à peu près 57% du produit intérieur brut, alors qu'en Allemagne, c'est 44%. Ça fait une différence considérable. C'est plus de 10 points de PIB. Et je me dirais, un homme politique en France, s'il a le pouvoir, il devrait être capable de voir ce qui, dans cette différence de 10 à 12 ou 13 points de PIB en matière de dépenses publiques, il y a des choses qui sont pas absolument nécessaires. Et c'est ce petit travail auquel je me livre d'une manière évidemment assez superficielle, parce que c'est pas un livre de détails, de mesures programmatiques, mais
oui, de grandes orientations.
Mais vous verrez que il y a des axes de travail qui sont, à mon avis, beaucoup plus simples et beaucoup moins rudimentaires que les pourcentages de fonctionnaires qu'il ne faut plus recruter, etc., quand ils partent à la retraite et tout ça. Je prends les différentes fonctions, je les compare aux fonctions qui sont exercées par d'autres pays européens qui réussissent mieux que nous dans ces secteurs, et je vois comment on pourrait faire pour réduire ces dépenses-là. Et il y en a une qui vient tout facilement à l'esprit, c'est celle des retraites. Les retraites coûtent trop cher aujourd'hui à l'État, au budget de l'État, et il y a des manières, avec l'augmentation de l'âge de départ en retraite, il y a des manières de réduire la charge qui pèse sur le budget de l'État en matière de retraite. Mais c'est vrai aussi pour la santé. Et donc, il faut prendre cas par cas, les secteurs, ce que j'appelle les fonctions dans mon petit livre, qui peuvent, au fil des ans, si vous voulez, à la faveur des sédiments géologiques, devenir tout à fait exagérés dans leur importance sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est le moment de regarder cela. Alors, ce sont des mesures qui ne sont pas du tout des mesures antisociales. Ce que je dis là, c'est des mesures au contraire, ce sont des mesures très progressives sur le plan social, parce que, en fin de compte, ça consiste à demander aux plus riches de participer davantage, et ça consiste à ouvrir les portes des entreprises aux jeunes qui attendent dehors, et de substituer à un régime qui se dit social, parce qu'on part à la retraite plus tôt, parce qu'on est mieux remboursé, etc., substituer à ce régime qui se dit social, mais qui en fait est un régime malthusien, un système qui est orienté sur les jeunes. Et donc, si je devais caractériser mes propositions, je dirais que mes propositions sont pas du tout conservatrices. Elles essayent d'être sociales et intelligemment sociales. Donc je pense que c'est possible. Il n'y a rien dans tous les problèmes de lame de fond que nous avons évoqués dans cette conversation, il n'y a rien, à mon avis, qui soit absolument intraitable. C'est-à-dire que sur aucun sujet, je dis « non, là, n'y pensez même pas ». Non, je dis que dans chacun de ces sujets, il y a des choses à faire. Et c'est ce qui fait que l'ambition politique et la vie politique devraient être si stimulantes si on les regardait, non pas du point de vue des clivages un peu théoriques dont on parlait tout à l'heure, ou en tout cas très...
Idéologique,
voilà. On peut mettre des bannières dessus. Tandis que, dans ce que je dis, c'est pas des bannières qu'on brandit, c'est des sujets. Et c'est l'avenir de nos jeunes et de nos futurs jeunes. Et donc, moi, je suis vraiment obsédé par ça. Je pense qu'on fait fausse route. Par exemple, le débat d'aujourd'hui me paraît vraiment faux. Parce que rien dans ce qui est important pour l'avenir de nos sociétés n'est joué. Alors, si on se dit inconsciemment, il vaut mieux laisser tout ça pourrir, laissez les lames de fond vous submerger, laissez-les. Puisque de toute façon, on a tellement de mal à y parer. Et puis, un beau jour, la situation deviendra tellement impossible à gérer sur le plan politique qu'il y aura une dictature. Il y a des gens qui se disent ça.
Si le politique démissionne, ensuite, mais si le sceptre est par terre, quelqu'un va le ramasser.
Mais moi,
ça,
je
c'est
suis profondément hostile à cette politique. et donc, je reste encore, peut-être suis-je naïf, dans l'idée que nos citoyens peuvent se ressaisir, peuvent s'intéresser à la chose publique, à l'intérêt public, notion de moins en moins comprise, c'est-à-dire que l'intérêt public, c'est ce qui est bon pour l'ensemble de la nation. pas pour un secteur particulier. Ça peut être très dur pour un secteur particulier, mais c'est bon pour l'ensemble. Et donc, il faut avoir une vue du bien public. Et dans mon livre, je retrace une recherche, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce chapitre, je retrace une recherche d'un chercheur américain qui travaille dans une université à Vanderbilt et qui s'est attaché à la recherche suivante. Il regarde les lois qui ont été prises par le Congrès américain depuis un certain nombre d'années. Et il met en parallèle les décisions des législateurs, parce qu'il a fallu des majorités pour passer ces lois, et les groupes de pression qui manifestent, si vous voulez, les éléments de volonté publique ou de refus public qui peuvent se manifester sur tel ou tel sujet. Et ce qui est, à mon avis, très déroutant et très inquiétant dans la recherche, c'est que ce que trouve ce chercheur américain, c'est que l'influence des groupes de pression représentant les classes les plus aisées de la population est 6 fois plus importante que les groupes de pression qui représentent les classes les plus modestes. Et que si on prend les classes, alors les plus modestes, leur influence est négative sur la suite des décisions. Autrement dit, nous avons des systèmes qui se disent démocratiques parce qu'on vote tous les 5 ans. Mais en réalité, la configuration, si vous voulez,
des jeux institutionnels.
Oui, de l'institutionnel, de l'Assemblée, du Congrès, du gouvernement, fait que, en fait, c'est pas vraiment l'intérêt public qui domine. Oui. C'est un intérêt public vu par des classes assez spéciales et pour le moment très favorisé par les clivages croissants dont je parle dans le livre. Et donc, il faut se demander si nos systèmes sont si démocratiques que tout ça.
D'ailleurs, l'étude de ce Larry Bartels se termine par une citation d'Aristote que vous reproduisez dans
votre
ouvrage.
Oui, vous pourriez la lire,
je vais
s'il vous plaît.
La lire. Voilà. Lorsque la détention du pouvoir politique dépend de la possession du pouvoir économique ou de la richesse, quel que soit le nombre des citoyens en cause, cela s'appelle l'oligarchie. Mais quand les classes dirigeantes ont effectivement le pouvoir sans qu'intervienne leur puissance économique, alors cela s'appelle la démocratie.
Et oui. Et donc je crois que ce petit livre, effectivement, nous amène à réfléchir un peu à la démocratie, parce que tous ces sujets sont des sujets qui intéressent la population dans son ensemble. Il n'y a pas un de ces sujets, ni l'environnement, ni les inégalités, ni la vieillesse, il n'y a pas un sujet qui n'intéresse pas en profondeur les gens qui pensent à l'intérêt public et à l'intérêt de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Il n'y en a pas un. Et je me dis, est-il normal que dans le débat politique français en particulier, aucun de ces sujets n'est vraiment vu dans son ampleur. Regardez les retraites. Vous avez des gens dans le débat politique qui disent « Il faut ramener l'âge de la retraite de 62 à 60 ans. » Bon, c'est un désastre pour l'avenir des régimes de retraite. Mais est-ce qu'on discute du fond de cette affaire ? Est-ce qu'on parle du nombre d'actifs par rapport aux pensionnés, etc., que j'évoquais tout à l'heure ? Non. On dit « ça serait bien de passer à 60 ans ». Et vous avez deux représentants, représentant chacun à peu près 20% de l'électorat, qui ont proposé cette mesure qui est absurde du point de vue des lames de fond. Et donc, moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus de sérieux, un peu plus de vue à long terme. Vous savez, il y avait un grand homme d'État européen après la guerre qui s'appelait Monsieur de Gasperi en Italie. Et il disait, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a l'homme politique qui réfléchit à sa réélection, c'est-à-dire qui place tout sur un horizon de 5 ans. Et puis, il y a ce qu'il n'appelait pas des hommes politiques, mais les hommes d'État, qui pensent à la génération suivante. Et il disait, il faut essayer d'être dans la deuxième catégorie. Alors, je crois que c'est une assez bonne conclusion pour notre débat public.
Dans les circonstances actuelles, monsieur, je souhaite que vous soyez entendu. Je ne sais pas si vous le saurez. Peut-être faut-il aussi que nos concitoyens, vous l'avez dit, sont des problèmes qui concernent le bien commun, donc tout le monde, que chacun se prenne un petit peu en main également, en ayant conscience des enjeux. Et à cette fin, je les invite à consulter votre ouvrage, Les Lames de Fond se rapprochent, aux éditions Odile Jacob par Jacques Delarosière. Ils ne pourront plus dire ensuite qu'ils n'étaient pas au courant.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.